Donc, trois enquêtes sur les effets concrets du genre dans la construction de la ville. Donc, enquête réalisée sur une communauté urbaine française d'environ 1 million d'habitants. Donc, c'est la communauté urbaine de Bordeaux. On est toujours un petit peu optimiste. Depuis Jacques Chaban-Delmas, on dit que c'est une agglomération millionnaire, mais enfin, on n'a jamais réussi à atteindre le million. Donc, les élections battent leur plein en ce moment, et bientôt, ce sera une agglomération millionnaire. Hein. Et donc, dans cette communauté urbaine, eh bien, on a travaillé sur un certain nombre de matériaux que je vais vous présenter. Et donc, à la fois, je vous présente les résultats de ces études et puis aussi l'approche méthodologique. Hein. Alors, les équipements et espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. Donc là, ça a été un travail réalisé avec des financements du Conseil régional d'Aquitaine, du Conseil général de la Gironde et puis de trois communes. Et donc, on a travaillé sur à peu près sur trois communes d'abord et puis ensuite sur l'ensemble de la communauté urbaine, hein, sur les équipements de loisirs des jeunes, tout confondu. C'est-à-dire qu'on a pris le sport, la culture, les écoles de musique, les salles de danse, les lieux de répétition, les skateparks, les cités stades, les vacances sportives, etc. Et donc là, premier chiffre hein, qui est intéressant, 3/4 des dépenses publiques profitent aux garçons, tous équipements et loisirs confondus, de 8 ans à 20 ans. C'est-à-dire que même si on y intègre des activités qui seraient spécifiquement, enfin non mixtes, féminines, telles que la danse, la gymnastique rythmique et sportive, ou bien des activités qui sont partagées par les filles et garçons, mais non mixtes, comme le handball féminin, etc. Bon, si on met tout ça, hein, eh bien, on a une grande disproportion hein, des moyens donnés aux garçons et aux filles. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a finalement une répartition des sexes en activité. Hein, c'est-à-dire qu'on aurait, les garçons feraient plus de sport et les filles seraient plus à l'école de musique. Dans les écoles de musique, on a 50% garçons, 50% filles, comme à la médiathèque. Par contre, sur les terrains de sport, eh bien, on a 50, 60, 80, 90% de garçons. Hein, je vous donnerai quelques détails tout à l'heure. Donc, l'élément aussi, le deuxième élément qui est extrêmement important, hein, c'est que les filles décrochent massivement à partir de la sixième. Donc, on voit sur un panel de quelques dizaines de milliers de jeunes, hein, eh bien, on a un décrochage des filles à partir de la sixième. Alors évidemment, pour des raisons qu'on pourra discuter après, je ne dis pas de la puberté, etc., parce que ce sera déjà une interprétation, quoique c'est la réalité, mais c'est simplement pour on a marqué que l'âge, le passage du collège était un âge où les filles disparaissent de l'espace public. Alors elles disparaissent des clubs, elles ne vont plus à leur répétition parce qu'il faut se déplacer, qu'elles acquièrent une certaine autonomie. Et donc on ne les voit plus sur l'espace public. Ensuite, parallèlement, eh bien les collectivités, ça c'est vrai dans toute la France, continuaient à neutraliser cette offre de loisirs des jeunes en disant qu'on crée des lieux de pratique, d'accès libre, des loisirs sportifs qui sont les skateparks, les city stades, les lieux de répétition, ou bien les centres d'animation de quartier. On subventionne également des séjours de vacances pour les jeunes des quartiers. Hein, depuis 30 ans, on a compris qu'il valait mieux emmener les jeunes en vacances que les laisser brûler des voitures, comme c'était le cas à Vauvelin dans les années 80. Mais ce faisant, eh bien, on a, dans tous ces chiffres, une disparition des filles également. Elles ne partent pas dans les dispositifs Une Vie Vacances et elles sont totalement absentes de tous les équipements et espaces publics destinés aux loisirs, des équipements d'accès libre. Donc ça, c'est des études qui sont... On peut faire des découvertes magnifiques simplement en ouvrant les yeux, parce qu'il n'y a pas besoin de compter longtemps. Une fois qu'on a compté trois city-stades, on se rend compte qu'il y a 100% de garçons, et ça, vous pouvez le faire à Caen aussi, hein, il n'y a pas de souci. Il y a peu de chances de voir une région de France ou un quartier où il y ait ne serait-ce que 20% de filles sur un city-stade. Quant au skatepark, il y a quelques filles sur les skateparks, pour des raisons qui sont expliquées aussi dans les études de genre, hein, qui fait qu'il y a toujours une minorité de filles qu'on encourage ou qui sont motivés pour aller sur les terrains des garçons, puisque les activités des garçons sont toujours plus valorisantes que les activités des filles. Alors, autre élément, ces lieux fonctionnent comme des maisons des hommes, hein, qui valorisent les garçons virils et dominants. Donc là, j'utilise une expression qui avait été qui a fait le succès de Maurice Godelier sur... à partir d'une observation des Barouillas de Nouvelle-Guinée, hein, c'est-à-dire ces lieux de construction, de mise à part des jeunes hommes, d'initiation par des rites virils des jeunes hommes à l'écart, et qui permet à la fois la solidarité masculine, la confrontation entre les hommes, la sélection des leaders, des hommes qui vont dominer le groupe, et en même temps, dans des lieux un peu magiques, hein, ce que montre très bien Maurice Godelier, où les garçons fabriquent entre eux des objets magiques qui vont leur valoir le prestige une fois revenus dans la communauté des femmes. Donc là, les barouillas se mettent à l'écart du village, forgent des instruments et des outils qui ne servent qu'à ça, qui sont inconnus des femmes et qui font un grand bruit, et donc font énormément de bruit dans la forêt pour dire que les dieux sont venus sur eux et donc reviennent avec à la fois la virilité, la fertilité et le pouvoir. Donc voilà, c'est aussi c'est une métaphore qui marche très bien dans ces maisons des hommes, telles qu'elles sont conçues et telles que les collectivités les entretiennent et les choix. Hein, c'est-à-dire que les choix du verbe choyer, hein, c'est-à-dire que les garçons sont toujours encouragés à participer à ces activités non mixtes. Alors j'ai fait un certain nombre de travaux, hein, un certain nombre de travaux sur les espaces publics. Là, il y a sur les quais de Bordeaux, parc des sports. Où là, bon, vous voyez trois vignettes, hein, je n'ai pas fait exprès. Si vous allez observer, vous voyez qu'il n'y a que des garçons. Alors après, on pourra en reparler aussi un peu plus loin. Il se trouve que ces espaces, hein, qui sont mis au milieu de la ville sont occupés uniquement par des garçons. Et qu'en plus, ils ont aussi intérêt, à partir du moment où les garçons sont entre eux, eh bien, on aperçoit une ségrégation aussi des classes sociales et des couleurs de peau. C'est-à-dire que là, sur le skatepark de Bordeaux, il y a des garçons des classes sociales moyennes et supérieures, hein, plutôt, alors entre guillemets blancs. J'ai fait des études avec des étudiants à la fois africains aussi, parce qu'on n'avait peut-être pas la notion de ce qu'était foncé, noir ou blanc, hein, et puis là aussi bien sûr dans une idée de race comme rapport social de race bien sûr. Et donc on a observé globalement ce qu'on observait déjà à l'œil nu, hein, c'est-à-dire que quand on met en place des espaces qui ségrèguent les garçons au milieu de la cité, comme ça, eh bien ça ségrègue aussi les classes sociales. Et là, vous pouvez voir sur ces trois vignettes, plutôt des garçons à la peau noire sur le basket, à la peau foncée sur le mini-foot et à peau blanche sur le terrain de volley. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, mais ça, je pourrais en reparler tout à l'heure, c'est quand on fait un travail ethno-méthodologique pour demander quelles sont les raisons, hein, quels sont l'intérêt de ces terrains. Hein. J'ai des étudiants qui sont allés filmer l'adjoint au maire, les animateurs, en demandant avec un questionnaire biaisé qui consistait à dire comment expliquez-vous la formidable réussite du parc des sports de Saint-Michel. Et d'une seule voix, les élus, les animateurs disent c'est un formidable outil d'intégration. Alors que visiblement, nous observons que c'est un formidable outil de ségrégation, hein, donc comme vous pouvez le voir. Donc là aussi, ce sont toutes les questions qu'on peut se poser sur la non-mixité des espaces et sur également les modes, hein, qui font que la collectivité publique reproduit des schémas d'organisation de l'espace et consacre beaucoup d'argent public à l'organisation de ces espaces. Alors ça nous a amené d'ailleurs à faire des opérations très concrètes d'observation, de gender budgeting, on dit en européen, on dit comme ça, c'est-à-dire de calculer les budgets des communes par sexe, hein, euro par euro, et sur les loisirs des jeunes, les diagnostics qu'on a fait, donc on a fait aussi sur Ramonville et Toulouse, nous montrent que ces communes, presque toutes, ont le même chiffre, c'est-à-dire que 75% de l'argent consacré aux loisirs des jeunes est consacré aux garçons. Et que cette activité, donc ça va de pair avec tous les mécanismes qui font cela, c'est le décrochage des filles d'une part, c'est aussi la valeur différente, comme le relève chacun à leur manière, François Héritier ou Pierre Bourdieu, hein, la valeur différentielle des activités masculines et féminines, c'est-à-dire que le skate, le graph, les cultures urbaines, ça c'est bien, c'est utile socialement, c'est valorisé. Le twirling bâton, la natation synchronisée, la gymnastique rythmique et sportive, ringard, démodé, etc. Donc on voit bien que là aussi, dans les entretiens qu'on fait avec les élus responsables, la neutralisation des activités de loisirs ne permet pas de voir qu'elles sont sexuées et qu'elles sont du coup classées d'après leur sexe avec des valeurs différentes. Et donc chaque fois qu'un groupe de filles veut avoir un terrain de foot, hein, si c'est du football féminin ou une salle de danse, eh bien, elles ont toujours de grandes difficultés à avoir de l'espace. Alors qu'il n'y a pas de. Il y a des moyens quasiment illimités pour les loisirs masculins, ce qu'on retrouve quand nos villes construisent des stades de foot qui coûtent des millions d'euros, qui vont demander un entretien considérable pour 30, 50 000, 60 000 hommes. Hein. Il y a 3 000 filles et 60 000 hommes. Voilà. Et donc là, on n'analyse pas finalement, si on analyse en termes de gender budget, hein, on se rend bien compte qu'on est face à une énorme inégalité d'utilisation de l'argent public. Donc ces études Ces études sont intéressantes parce qu'elles, vous allez voir par la suite, elles nous montrent que la séparation des sexes dans la ville et la hiérarchisation des sexes dans la ville, l'emprise différente des femmes et des hommes dans la ville, eh bien, elle n'est pas un simple construit. Hein, elle continue à être construite de façon massive par des systèmes d'apprentissage implicites qui consistent à finalement inciter tout le monde à aller vers les loisirs, mais à ne rien faire pour que les filles y restent à partir d'un certain âge. Et donc là aussi, ce qu'on verra par la suite, mais j'y reviendrai, on peut voir comment cet apprentissage de l'aisance, de la sortie, etc., qui est déjà quelque chose qui culturellement est installé et renforcé par ces politiques publiques, quand les filles disparaissent de ces loisirs, eh bien elles perdent d'une certaine manière, alors pas évidemment pas toutes, hein, je m'entends bien, hein, c'est un phénomène qui est statistique, mais qui ne correspond pas effectivement, mais elles perdent une certaine emprise sur la ville, ce qu'on va retrouver dans les études suivantes. Alors deuxième étude, hein, l'étude de la ville par l'usage de la ville par le genre. Donc ça c'est un travail de recherche qui a été fait avec l'agence d'urbanisme d'Aquitaine. Les agences d'urbanisme, vous savez, font des travaux de préconisation sur les transports, les mobilités, les extensions des villes, enfin tout ce qui a rapport avec l'urbanisme pour les collectivités territoriales. Hein. Elles pensent la ville de demain. Et donc, avec l'agence d'urbanisme Aquitaine, on a fait un petit programme qui s'appelait l'usage de la ville par le genre, hein, qui malheureusement n'a pas été suivi, parce qu'il faut savoir que sur ce genre d'études, on n'est jamais suivi. Hein, on fait un truc et puis ensuite ça ne suit pas parce que ça soulève trop de lièvres. Donc on a toujours beaucoup de mal à continuer. Enfin là, ce qui était assez intéressant, c'est que cette étude qui est en ligne a été énormément téléchargée et donc a eu pas mal d'impact. Hein, donc là, avec ma collègue Marie-Christine Bernard-Rome, qui est ethno-urbaniste, on a tourné un peu dans toute la France pour la proposer, alors que c'est une étude qui avait un tout petit budget et que les grosses études de l'agence d'urbanisme, en général, finissent dans des placards et personne ne les consulte. Vous voyez, donc c'est aussi les paradoxes, parce qu'on peut, c'est pas parce qu'on découvre des poteaux roses ou qu'on soulève des lièvres qu'effectivement ça convainc les gens. Alors là, c'était une mise à plat des chiffres. Hein, on a à partir d'une enquête sur les mobilités des ménages, c'était ça qui était intéressant. Donc 6000 ménages avaient été enquêtés, donc c'est pas nous qui l'avons fait, avaient été enquêtés par l'agence d'urbanisme d'Aquitaine, 6000 ménages de la communauté urbaine de Bordeaux, pour savoir comment les gens se déplaçaient. Donc l'idée, vous savez, c'est l'idée des bonnes pratiques de la ville durable, sur lesquelles je reviendrai après. Il ne faut plus faire de voiture, maintenant il faut prendre le tramway, le bus, le vélo, marcher à pied, hein, parce que sinon il y a le réchauffement climatique, il y a les embouteillages, des choses comme ça. Donc là, à partir de ça, donc, il y avait cette enquête mobilité ménage, qui était faite très, très consciencieusement avec des données sexuées. Et donc là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'on peut avoir des données sexuées, c'est pas pour ça qu'on a une analyse genrée. C'est-à-dire que dans ces données sexuées, on voyait que les femmes, par exemple, faisaient 75% des accompagnements, hein, des enfants, mais aussi des personnes âgées, des voisins, etc. Mais une fois que la donnée sexuée est donnée, elle n'est pas traitée après. Hein, on fait comme si c'était naturel. Hein. Voilà, donc là, on voyait que les données de la communauté urbaine Bordeaux qui étaient compilées, c'était des données de cadrage genre INSEE, hein, qui montraient, à partir d'études générales, que les femmes continuent à faire 3/4 des tâches domestiques. Alors là aussi, on dit, ah non, c'est plus pareil, on a l'impression, les jeunes générations, qu'on partage le ménage, qu'on fait. Mais en fait, les statistiques sont malheureusement assez stables, hein, donc il y a quand même toujours... notamment à partir du moment où il y a foyer familial, quand les enfants arrivent, bien une répartition des tâches domestiques qui incombe aux femmes. Hein. Elles ont toujours des salaires inférieurs aux hommes, comme vous le savez. Et c'est pour ça qu'on fait des lois pour essayer de corriger ça. Et alors ce qui nous a intéressé, c'est surtout sur les accompagnements. Ce sont elles qui accompagnent. Hein. Et ce sont elles aussi qui font les transports pour les courses aussi, des choses comme ça. Alors après, il y a d'autres aspects qui distinguent les femmes des hommes. Ce sont elles qui trient en général les déchets. Ça, c'est ma collègue Sylvette de Neffle de la Maison des sciences de l'homme de Tours qui a travaillé là-dessus, avec aussi d'autres gens qui travaillent sur la sociologie des féministes ou du genre. Elle participe peu à la vie politique, 7 vice-présidentes femmes pour 36 à la communauté urbaine de Bordeaux. Hein, donc, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a travaillé sur les organigrammes. Donc on a vu qu'aucun des architectes ou des urbanistes qui construisent la future agglomération n'est une femme. Donc vous pouvez vérifier hein, s'il y a un grand Caen ou la ville de Caen, vous regarderez qui sont les urbanistes, les architectes, les concours d'urbanisme, c'est toujours des hommes. Hein, donc voilà. Donc les femmes, elles font l'architecture intérieure, elles ont des petits bouts de marché, les gros marchés, les grosses conceptions, c'est toujours les hommes. Hein. Et troisième point qui est important, sur lequel on a travaillé, elles se sentent massivement en insécurité d'ennemi et adaptent leur comportement en conséquence. Alors là aussi, je vais revenir hein, sur ces études hein, qui ont été faites d'abord sur des questionnaires assez larges et puis après sur la technique des groupes focus. Elles se sentent en insécurité la nuit. Ce n'est pas pour ça qu'elles ne sortent pas la nuit, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'elles disent, c'est un certain nombre de femmes interrogées, de jeunes femmes, disent sortir librement la nuit, et ne pas hésiter à rentrer tard, etc. Seulement, dès qu'on rentre dans les détails, on voit qu'elles adaptent leur comportement en fonction d'un danger potentiel de la ville, ce qui est différent pour les hommes. Alors, cette étude, bon, ça a été l'occasion de produire un certain nombre de petites cartes, hein, du genre... alors, c'est pas vraiment des cartes mentales, mais c'est des cartes à partir de représentations hein, sur les lieux dangereux, les lieux aimés, etc. Hein. Donc, j'y reviendrai un petit peu. Dans le cadre de ce travail, on a réalisé trois études, un certain nombre d'études microgéographiques, puis on est en train de continuer maintenant. Et je voulais vous proposer de vous donner un petit éclairage sur ces études microgéographiques. Donc, première étude sur le quartier de Paludat, donc j'ai fait ça avec un groupe d'étudiants, et par contre sur les deux autres, j'avais un peu de budget sur des sociologues qui étaient aussi des étudiants mais plus avancés et qui étaient rémunérés. Hein, et Paludat, ça a été avec un groupe d'étudiants. Le quartier de Paludat, c'est un quartier de fête étudiante. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bordeaux, hein, ça se trouve derrière la gare. Disons qu'il y avait l'ancien abattoir qui avait brûlé et puis un quartier délaissé et où il y a toujours eu quelques boîtes et de la prostitution. Et puis ça a bien pris, hein, surtout avec l'augmentation de la population étudiante de Bordeaux, puisqu'on a maintenant 80 000 étudiants à Bordeaux, donc il y a une fête étudiante. Et donc il y a deux lieux de fête qui se sont créés aux deux bouts des quais, hein, plutôt du côté du bassin à flot, hein, là où il y a maintenant le nouveau pont, et il y a deux caractéristiques différentes de ces quartiers de fête, et un du côté de Paludat, où là il y a une quarantaine de boîtes, plus des kebabs, etc. Hein. Dans ce quartier. Alors là, il y a une petite photo en haut. Dans ce quartier de fête, donc on a déjà observé comment ça se passait. Donc, à partir de minuit, 11h30 minuit, donc il y a une migration de la place de la Victoire, hein, qui est aussi un lieu de retrouvailles des étudiants, vers les quais, hein, qui se fait le plus souvent à pied, mais qui peut se faire aussi en bus. Hein, il y a encore des bus à cette heure-ci. Donc la fête commence à minuit, minuit et demi, et se termine à 7-8 heures du matin. Alors, les filles les étudiantes qui vont faire la fête sont très contentes d'y aller. Elles disent n'avoir aucun problème à l'intérieur des boîtes, puisque de toute manière, comme elles sont aussi un peu les reines de la fête, s'il n'y avait que des garçons dans les boîtes, ce ne serait pas très intéressant. Donc, il y a des entrées moins chères, ensuite elles sont protégées. Les garçons qui sont indélicats sont virés, hein, et puis sont déjà sélectionnés à l'entrée pour des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi cette idée que les étudiantes sont choyées, hein, et que justement on les protège d'une certaine manière. Bon, une fois par contre, quand elles sortent, hein, les problèmes commencent, parce que à partir de 1h du matin, il n'y a plus de tram, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus, et on est dans un lieu qui est excentré, très noir, extrêmement mal éclairé, et où rôdent un certain nombre de gens, il y a pas mal de gens bourrés, etc. Et donc là, elles ont toute cette angoisse avant de partir. Parce que le problème quand on part, c'est qu'on ne part pas forcément au même moment que les autres. On peut avoir un examen le lendemain ou être un peu fatigué. Et donc, il faut aborder cette rue noire et cette rentrée vers ailleurs. Alors, un certain nombre utilisent des procédés comme utilisent des taxis. Elles prennent à 4 ou 5 un taxi. Oui, ils prennent à 4 ou 5 un taxi. Certaines prévoient de se faire accompagner par un copain. Hein. Mais on voit bien déjà le déséquilibre de la nuit où les femmes sont quand même dans des situations de protection par rapport aux prédateurs potentiels la nuit. Donc elles racontent aussi comment, peut-être je vous raconte des choses que vous connaissez déjà, comment elles ont dans leur sac des souliers plats pour pouvoir courir alors qu'elles avaient des talons dans la boîte, comment elles mettent un maxi par-dessus leur mini-jupe pour se cacher, et puis après il y a les bombes lacrymogènes, le téléphone ouvert dans le sac. Donc là, toute une série de systèmes de protection qui anticipent sur le côté naturel de la ville masculine et dans lequel rôdent des gens qui peuvent être éventuellement des agresseurs. Hein. Donc il y a aussi d'autres actions qui sont beaucoup plus actives, comme les groupes d'autodéfense, hein, puisque je crois que Camille avait prévu d'inviter des gens qui faisaient partie de ces groupes, hein, qui sont des groupes de femmes et de jeunes femmes qui ont décidé de prendre en main leur propre défense dans la ville. Mais d'une certaine manière, on voit bien comment l'ensemble de la population féminine, hein, et puis on le retrouve aussi sur les enquêtes sur d'autres tranches d'âge, a vraiment intériorisé cette dangerosité de la ville et le considère comme quelque chose de fatal, naturel, impossible à combattre. On considère que naturellement, eh bien, il faut se protéger dans la ville. Alors, ces choses sont souvent surévaluées, hein, puisque, comme vous le savez probablement, les hommes sont plus victimes d'agressions la nuit que les femmes. Cela dit, les agressions ne sont pas les mêmes, puisque la principale peur des femmes dans la ville, c'est l'agression sexuelle. Voilà, donc, et que les hommes n'ont pas cette crainte-là d'une part, et puis ensuite que cette peur de l'agression a été largement anticipée par les processus éducatifs, familiaux, etc., la rumeur, la télévision, etc., qui dit « protégez-vous ». Donc de temps en temps, une performance telle que le viol d'une joggeuse, eh bien, peut donner l'occasion d'un couplet de prudence, hein, c'est-à-dire « méfiez-vous, ne faites pas du jogging tout seul » ou bien « ne fréquentez pas ce quartier ». Donc les avertissements sont donnés de façon permanente aux femmes pour qu'elles se méfient dans la ville et qu'elles essayent de ne pas se mettre dans des états de risque dans la ville. Alors il y a encore quelques années, et c'était sur le site du ministère de l'Intérieur jusqu'à il y a quelques mois, il y avait des avis du ministère de l'Intérieur disant aux femmes « quand vous vous prenez dans la ville, mettez une tenue adéquate, ne marchez ni trop vite pour ne pas avoir l'air d'avoir peur, ni trop lentement pour ne pas croire que vous cherchez, ne restez pas en stationnement ». Et donc toutes ces indications de prudence données sur des sites, qui sont d'ailleurs des conseils donnés aux femmes en général, eh bien nous donnent des indications, hein, sur la spatialité des acteurs en général, et notamment la spatialité des femmes dans la ville. C'est-à-dire qu'une femme dans la ville ne peut pas stationner parce qu'elle risque d'être prise pour une prostituée, hein, dans la nuit, le soir. Donc elle doit marcher ni trop vite pour ne pas avoir l'air d'avoir peur, ni trop lentement pour ne pas avoir l'air de chercher. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai une collègue qui s'appelle Nadia Rejel, qui a travaillé sur la ville de Constantine en Algérie et qui avait exactement le même type de constat sur les mobilités des femmes dans la ville. Donc ces indicateurs nous montrent bien la spécificité de genre, hein, c'est-à-dire que si on a une ville pour tous dans la journée, hein, qui peut paraître neutre, égalitaire, mais dès que la nuit tombe, et dans certains quartiers, elle cesse d'être inégalitaire. Alors, c'est intériorisé évidemment par tout le monde, hein, c'est-à-dire que les femmes plus âgées, par exemple, prennent leur voiture le soir, ne vont pas, par exemple, en tram ou à pied au cinéma ou au théâtre ou dans un restaurant. Elles se débrouillent pour prendre leur voiture et aller en parking de centre-ville. Hein. C'est aussi pour ça qu'elles utilisent souvent leur voiture et elles ne prennent pas le tram. Les étudiantes, bon, elles vivent comme tout le monde et simplement elles vivent avec cette notion de risque et puis aussi cette intériorisation du fait que le plaisir d'être étudiant dans une ville et de faire la fête est de toute manière plus fort. On ne va pas rester non plus cloîtré chez soi et ne pas profiter de tous les avantages de la ville. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là n'est jamais abordée. Hein. Si dans les entretiens qu'on a avec les élus, si on parle des femmes dans la ville, on a toujours pensé les couloirs à poussettes, les jeux pour enfants. Mais si on leur dit « oui, mais on a des étudiantes à 4h du matin, elles ont la trouille quand elles rentrent de Palidat », ils regardent d'un air effaré en disant que c'est pas leur problème. Et puis que vont faire les filles à 4h du matin dans les rues de Bordeaux si elles leur arrivent des ennuis, c'est quand même bien leur problème, etc. Vous voyez, donc il y a une déresponsabilisation complète devant le fait que les femmes soient des proies potentielles dans la ville. Ça fait partie de l'ordre de l'évidence. Et donc on ne l'envisage pas et on ne l'envisage jamais dans les documents d'urbanisme. Hein. C'est un sujet tabou. Hein. Donc là, on verra après, dans les bonnes pratiques de la ville durable, on va éteindre les éclairages, tout ça. Hein. On ne pense pas que finalement, on n'a pas traité, avant d'éteindre les éclairages, le problème de l'inégalité des femmes et des hommes dans la ville. Hein. Alors, deuxième petite étude de microgéographie, la Porte de Bourgogne. Donc, c'est un nœud de circulation en bordure des quais. Donc, il y a deux lignes de tram qui se croisent, deux lignes de bus. Il y a un pont qui relie la rive droite et la rive gauche. Et puis, il y a un aménagement ludique des quais. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé à Bordeaux récemment. Il y a un super aménagement des quais. Donc, les anciens docks du port ont été abattus. Et puis, maintenant, il y a la belle façade 18e. Et donc, il y a un aménagement des quais avec... des promenades, des pistes cyclables, des jardins. Et donc, il y a une piste cyclable qui longe toute cette façade des quais sur à peu près 2,5 km. Enfin, piste cyclable, elle est piétonne. Alors, donc, dans cette Porte de Bourgogne, eh bien, on a étudié. Alors là, on a fait de la microgéographie, hein, on pourrait même presque dire de l'éthologie. Hein, c'est-à-dire qu'avec un groupe d'étudiants, on a regardé... les hommes et les femmes, hein, on a pris ce critère de séparation hommes et femmes, Et on a regardé où est-ce que les femmes tournaient, où est-ce qu'elles descendaient, où est-ce qu'elles allaient. Hein, on a essayé de cartographier, de faire une cartographie sexuée de la place. Hein. Donc c'est assez intéressant. Par exemple, à la sortie du tram, hein, tout le monde trouve ce coin un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a aussi, pareil, un quartier avec le cours Victor Hugo où il y a pas mal de pauvreté. Souvent des gens assis par des hommes assis par terre, des punks à chiens, des gens un peu bourrés, des commerces turcs et des bars. Hein. Une atmosphère, on voit que les femmes n'aiment pas ce quartier d'une part, et puis ensuite qu'elles évitent, elles font des évitements. Par exemple, sur cette photo du tram, là, quand on descend, là c'est l'avant, vous avez, quand on descend du côté des immeubles, en fait, ce passage-là a été remblayé, et en dessous, il y a un petit bout de rue qui est en contrebas. Et donc on descend par un escalier, ensuite on longe le quai Richelieu, on rattrape le cours Victor Hugo. Et en fait, cet escalier n'est jamais pris par les femmes qui font le grand tour. Hein. Alors donc, à la sortie du tram, on voit tous les hommes descendre par l'escalier et toutes les femmes prendre le tour extérieur. De l'autre côté des quais, hein, il y a cette piste cyclable qui passe sous le pont Saint-Jean. Donc là, c'est assez intéressant aussi parce qu'on fait du comptage. Alors, vous verrez comment il y a une différence aussi entre femmes et hommes dans la ville sur les circulations douces, je vous le dirai tout à l'heure. Mais là, on voit bien que les femmes passent par-dessus le pont, les hommes passent par-dessous le pont. Donc en fait, juste quand on a publié cette étude, immédiatement, trois semaines après, il y avait des éclairages sous le pont, et, parce que l'étude avait été lue par la mairie de Bordeaux, et donc ils ont fait un petit aménagement. Vous voyez, donc quelquefois, ça fait plaisir, les études ont de l'effet. Hein. Et donc, on a fait un certain nombre d'entretiens, et on s'est rendu compte que sur cette place, elle était crainte, hein, et notamment ce qui était crainte, c'était pas le tram. Le tram est généralement... plébiscité par tout le monde, hein, et notamment par les femmes. Excusez-moi, je parle des femmes, mais après on verra qu'il y a aussi d'autres catégories, qu'il n'y a pas une catégorie femme homogène. Et globalement, le problème du tram, c'est dès que les trams s'espacent, c'est-à-dire quand il y a un tram toutes les 3 minutes, ça va, mais quand il commence à y en avoir tous les quarts d'heure, voire toutes les 20 minutes, et que c'est le soir, eh bien ça devient un problème de stationner à l'arrêt de tram pour les femmes, parce qu'elles sont souvent emmerdées par des gens sous, des gens qui... cherchent la drague lourde, etc. Donc elles ont toujours cette appréhension. Et là, ça, c'est un quartier, une station particulièrement pénible pour ça, qui est assez stressante. Par contre, quand elles prennent le tram, après, le problème, c'est plutôt les bouts de ligne. Mais je vous raconterai après, ou si on en discute, les stratégies aussi de placement dans le tram. C'est-à-dire que, en général, sur les cohortes qu'on a fait, il y a des comportements qui sont très, très typiques aussi. C'est-à-dire que les femmes, quand elles rentrent dans le tramway jette un regard circulaire. S'il y a des groupes d'hommes, restent près de la porte. Elle préfère, si elle s'assoit, être sur des sièges à deux que face à face, de façon à ne pas avoir à croiser les jambes ou être à côté d'hommes qui prennent toute la place ou des visages. Donc il y a quand même aussi des stratégies de placement qui sont parfaitement intériorisées, hein, et qui sont quand même très différentes de ce qu'on peut avoir dans les entretiens avec les jeunes hommes. D'ailleurs, quand on fait des entretiens avec les jeunes hommes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent rarement des hommes, mais ils parlent de leurs copines, en fait. Ils disent « Oh, moi, ça va très bien, le tram, mais je sais que ma copine... » Ou bien, le cours Victor Hugo, moi, j'habite cours Victor Hugo, c'est un endroit où il vaut mieux habiter en couple, parce qu'une fille seule, c'est pas terrible. Donc, les hommes aussi ont intériorisé cette dangerosité de la ville. Hein. Troisième étude micro-géographique, le parc de Font-Gravet. Alors, j'ai pas été dans tous les détails, parce qu'on a aussi regardé les gens à pied, à vélo, à roller... les modes de circulation. Un parc public, le parc de Font-Gravet, hein, parc, je crois que j'ai une grande carte là. Alors attendez, oui, tiens, c'est ça, j'ai oublié de vous montrer ça. Voilà, ça c'est un type de travaux qu'on a fait, ça c'est sur le quai de Paludate. Donc ça c'est de la géographie surplombante, hein, avec un plan, hein, c'est le travail de Cécilia Comelli. Et donc elle a fait un travail de repérage avec aussi les camions de vente ambulants type kebab, les prostituées. Alors je vous dirai pourquoi les prostituées aussi, les afters, les restaurants, les bars, hein. Après, un certain nombre de sondages avec danger, attraction, répulsion. Ce que pensent les hommes de la ville. Alors, elle posait des questions en disant aux garçons, en disant, est-ce que vous pensez que la ville est dangereuse? Et ils disaient, ah oui, elle est dangereuse, mais surtout pour les filles. Et donc, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait cette conscience générale, tout sexe confondu, que la ville était plus dangereuse pour les hommes que pour les filles. Ce que ne disent pas, là encore, hein, les statistiques, puisque les hommes sont plus souvent agressés physiquement dans la rue. Hein. Par contre, c'est le sentiment d'agression, le sentiment d'insécurité. Et puis aussi, l'énorme différence, c'est que les hommes n'ont à aucun moment, sauf la catégorie des garçons gays qui vont dans une boîte de Bordeaux, hein, et qui craignent l'agression, sauf la catégorie des garçons gays, les garçons n'ont jamais la peur d'être violés. Hein. Ils ont peur de se prendre un coup, de se faire piquer leur portefeuille, d'être dans une bagarre. Hein. Et que la question de l'agression sexuelle, hein, de la liaison entre l'incivilité, la drague lourde, le fait d'être suivi, le fait de toucher, frotter, frôler dans le tram, et puis qui va jusqu'à l'agression sexuelle, voire le viol, fait partie des angoisses structurelles, hein, dans la ville, qui fait que la ville est dominée par les hommes et fait peser une pression sur les femmes. Hein. Voilà, ça c'est les petites cartes qu'on a fait. On pourrait dire que c'est des cartes mentales, mais ce n'est pas tout à fait le principe des cartes mentales. Hein, c'est le principe des groupes focus. Donc on a fait travailler quatre groupes de 15 femmes qui ont été recrutées par l'NPE. J'avais un peu d'argent, donc là c'est intéressant, par échantillon. Ils nous ont parlé de la ville, des endroits où elles allaient. Donc là, on a fait des petits dessins avec les endroits dangereux. Hein. Donc, vous voyez le quartier de Paluda qui est tout à fait en bas à droite. Donc c'est un quartier craignos, on a peur. Sauf dans l'endroit où il est plébiscité par les filles, parce qu'il y a deux filles qui dansent. Là, voilà, c'était rigolo. Quoi. Et puis par contre, des endroits, on voit bien, hein, les endroits dangereux, avec la différence entre Bordeaux jour, Bordeaux nuit. C'est-à-dire que s'il y avait une ville qui est faite pour tout le monde, hein, si on doutait qu'il existe, qu'il existe une classe femme, toujours avec d'énormes guillemets, là, avec 14 guillemets de chaque côté, eh bien il suffirait de dire que dès que la nuit tombe, hein, on voit bien que les comportements, les représentations de la ville changent entre les hommes et les femmes. Voilà, alors ça c'était la troisième étude microgéographique. On a planqué dans un parc qui se trouve dans la banlieue de Bordeaux, à Blanquefort. Alors c'est un parc plutôt sympa, qui est au cœur de ville, qui a été conçu en plus par l'architecte comme un parc ouvert. Ils ont supprimé, quand il était réaménagé, ils ont supprimé toutes les barrières. Et puis c'était un parc avec, souvent dans notre région, c'était des belles propriétés d'été des bourgeois bordelais. Donc il y a un château au milieu, où a vécu le poète Hölderlin, voilà. Donc, et puis avec un chalet, etc. Et donc c'est un très beau parc autour. Alors il a été aménagé progressivement depuis des années. Il y a des cours de tennis, une salle polyvalente, il y a un centre de loisirs sans hébergement, un LSH maintenant, on dit, avec le parking. Et puis des aménagements récents, le gymnase à droite, avec le parking gymnase, un skate park, le blockhaus qui est un ancien blockhaus de la... Enfin, vous connaissez bien sûr, c'est une architecture typique de la Normandie. Ben, on en a aussi en Aquitaine. Et donc ce blockhaus qui est un peu à l'écart de la ville a été transformé en local de répétition rock qui a une grande réputation sur Bordeaux, où on répète de façon 24 heures sur 24 avec un système de digicode, une autogestion tout à fait exemplaire. À peu près 25 ou 30 groupes de rock répètent très, très régulièrement dans ce local, hein, qui est autogéré. Hein. Et puis il y a eu un aménagement récent qui est le skatepark. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a travaillé sur, là pour le coup, il y a eu 60 ou 80 entretiens et puis aussi du repérage qui nous a amené à faire ce type de carte. Alors il y en a d'autres aussi, hein, où on voit la mobilité tout public, hein, c'est-à-dire les circuits de circulation où tout le monde passe par ces endroits. Hein, voilà. Et après, on a fait un petit pointillé bleu qui s'appelle Frontière des peurs nocturnes. Hein, dès que la nuit tombe, eh bien, du coup, le parc n'est plus tellement utilisé. Hein, les murs et clôtures, les sentiers éclairés la nuit. Et puis alors, les îlots de stationnement masculin. Donc là aussi, la frontière des peurs, eh bien, correspond également à des équipements spécifiques qui ont été mis pour tous les jeunes, mais qui en fait ne réunissent que des garçons. Le skatepark, hein, où il y a des embrouilles, etc. Alors dans la journée, ça fonctionne. Le soir, il y a même certains garçons qui n'y vont plus parce qu'ils disent... alors ici, c'est pas... Parce que chacun a ses clivages ethniques. Hein, alors il y a des endroits, c'est les Turcs, d'autres, c'est les Maghrébins. Là, Blanquefort, c'est la communauté des gens du voyage. Alors, dans les entretiens, ils disent, ouais... il y a les embrouilles avec les gitans, voilà, etc. Et le blockhaus, ça c'est l'endroit des rockers, hein, donc aussi, qui est dans un endroit assez tagué. Hein. Alors les filles qui ont appris la musique à l'école de musique aimeraient bien aller jouer au blockhaus, mais à 6h du soir, bah, c'est tout noir, les parents ne veulent pas les laisser y aller, etc. Hein. Donc voilà ce type de problème qu'il peut y avoir. Et puis le gymnase, donc gymnase où il y a évidemment une grande quantité de sportifs féminines, mais où c'est un lieu quand même majoritairement masculin. Et donc là aussi, bien, on voit bien que la citoyenneté spatiale n'est pas la même entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes. Et puis on voit aussi comment certains s'arrangent pour bénéficier quand même du parc. Par exemple, on a interviewé trois femmes qui promènent leurs chiens, donc qui vont courir, avec et qui disent moi le parc de Fontgravet j'adore, je suis avec mon chien, et en fait le chien est un compagnon et en même temps c'est aussi l'autodéfense d'une certaine manière, donc elles se sentent en sécurité, hein. Et puis d'autres types de pratiques, il y a aussi des pratiques de flirt l'été, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de lycées autour, donc là il y a des petits coins qui sont sympas pour ça, et donc on voit quand même que ce parc est à la fois attractif, hein, on pourrait dire érotique même quelquefois, hein, il est intéressant, hein, je veux dire, c'est un endroit de plaisir, et en même temps comment il est contraint, hein, par les normes de genre, il se réduit comme peau de chagrin l'hiver et dès qu'il fait nuit. Alors, la ville androcentrique, c'est ça, c'est androcentrique, andros c'est l'homme, hein, oui, il est déjà 16h54, il faut que je presse, mais j'ai commencé à 16h.
Oui, vous avez du temps. Hein.
Alors,
j'ai 20 minutes.
Ces enquêtes montrent une ville traditionnellement construite par et pour les hommes, hein, alors est-ce que cela a un rapport avec l'investissement moindre des hommes, des femmes dans la ville, la manière dont leur présence dans la ville, leur travail tend à être réduite aux fonctions de care, c'est-à-dire que quand on aménage la ville, on pense aux personnes âgées, aux enfants, etc. Hein. Le fait que les femmes qui sortent le soir continuent à être considérées comme des proies potentielles, possiblement consentantes. Là, en ce moment, je suis en train de réaliser une étude avec une étudiante qui a eu, en l'espace de 48 heures, 181 réponses, un questionnaire sur le harcèlement dans le tram. Donc voilà, je ne sais pas comment c'est ici, mais les frotteurs, frôleurs, dragues lourdes, et jusqu'à l'agression. Hein. Donc il y a vraiment quand même un problème qui est massif avec les étudiantes. Hein. Et la persistance des agressions homophobes, donc on en touchera un mot dans le débat tout à l'heure, hein, avec une augmentation très sensible en 2012-2013. Il est vrai qu'on est une des villes championnes des manifs pour tous, avec on a des grandes institutions catholiques, hein, des écoles jésuites, et puis une bourgeoisie bordelaise qui est avec des groupes anti-avortement extrêmement anciens, construits. Hein. Et donc là, la manif pour tous, ça a été le signal de relâchement, hein, et donc il y a eu une augmentation de 4 ou 5 agressions envers surtout les garçons gays, hein, mais aussi quelques lesbiennes. Troisième partie de la recherche, elle interroge la communauté des membres. Alors je fais de l'ethnométhodologie, hein, j'utilise Garfinkel, qui aménage la ville en essayant de comprendre les allants de soi qui rendent invisibles ces inégalités. Hein. Donc ce qu'on appelle l'ordre de l'évidence ou l'allant de soi, hein, qui consiste à dire, bah oui, c'est comme ça. Si je vous dis les garçons font plus de sport que les filles, vous allez dire, bah oui, c'est évident. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de filles qui font du sport. Vous allez dire, mais il n'y a pas 50-50, mais on va trouver que ça, c'est déjà bien s'il y en a 30% qui font des filles. Voilà. Si je dis à mes collègues profs de fac, je dis, il y a 60% de profs, de maîtresses de conférences et 30% de profs, ils vont dire, bah, c'est déjà pas mal, 30% de profs. Hein. Ça a progressé. Hein. On va considérer que ça, c'est un allant de soi. Hein. Donc là aussi, on essaye de comprendre ces allants de soi, hein, qui rendent invisibles ces inégalités. Quand j'ai fait cette découverte qu'il n'y avait que des garçons sur des skateparks et des city stades, donc là c'était une bonne idée, mais c'était une découverte qui était très facile, hein, il suffisait de regarder pour le voir. Mais personne ne le voyait. Les gens disaient, mais non, il y a plein de filles, il y a de plus en plus de filles. Mais si, si, il y a plein de filles. Alors, j'ai une copine skateuse. J'ai dans le rock, il y a que des garçons. Mais non, il y a plein de groupes de filles, il y a plein de filles dans les groupes de rock. Alors après, on va compter, on voit 10%, 15%, 20% de filles. Donc la chanteuse rockeuse ou la bassiste est hyper visible, hein, parce qu'elle fait comme les minorités sont toujours plus visibles. Hein. Mais la réalité, hein, c'est l'écrasante domination masculine qu'on retrouve sur l'espace public. Hein. Alors comment on pouvait aborder ça? Ben, j'ai eu la chance qu'on me propose d'être expert pour observer un truc qu'ils ont appelé le Grenelle des mobilités. Le Grenelle, vous savez, c'est ces grandes messes qui essayent de réunir tous les acteurs pour trouver des solutions à l'écologie, à la question, etc. Et donc là, à Bordeaux, il y a des encombrements chroniques sur la rocade, il y avait des problèmes de mobilité, le tramway ne résout pas tout. Eh bien, il fallait rassembler tous les partenaires de la ville pour trouver les meilleures solutions pour la ville, hein, pour les mobilités. Donc les associations, les élus, les... Voilà. Donc des choses, une opération extrêmement réussie de participation, hein. Il y a eu une vingtaine de réunions. Donc quand je dis une vingtaine de réunions, c'était 6 réunions, mais après il y avait des groupes de travail avec des plénières qui faisaient entre 80 et 200 personnes et des groupes de travail qui faisaient une vingtaine de personnes. Alors lors de ces réunions qui ont duré un semestre, enfin 4 mois ou 5 mois, j'ai fait un comptage des présences. J'étais pas invité pour ça, hein. J'étais invité pour autre chose, mais du coup j'ai fait mon enquête. Des temps de parole a été réalisé sur 6 ateliers, environ 40 personnes, et 3 réunions plénières entre 100 et 200 personnes. Donc 75% des participants sont des hommes. Ah oui, je voulais vous dire aussi, c'est un petit... sauf qu'il y a des gens qui sont arrivés après. Mais au début, il y avait 14 hommes et 14 femmes et 12 hommes dans la salle. Puis là, maintenant, je crois qu'on est 17 et 13, un truc comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai tenté. Je me suis dit au début, il y a beaucoup de garçons. Puis finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Quoi. Voilà. Donc, je trouve super d'ailleurs qu'il y ait à peu près autant d'hommes que de femmes pour une conférence sur le genre. Hein. Je trouve ça très bien. Alors, c'est un tic de compter. J'espère que je vais vous donner cette envie de compter. Hein. Vous regarderez les skateparks, les cyclistes, partout où vous allez compter pour voir. Et vous verrez à quel point la société est peu mixte, en fait. Hein. Voilà. Alors, 75% des participants sont des hommes, 85% des animateurs d'ateliers sont des hommes, 100% des experts intervenants extérieurs sont des hommes, 90% du temps de parole est occupé par les hommes. Les femmes qui évoquent leurs problèmes de famille nombreuse, de cumul de tâches, de peur la nuit, n'intéressent pas, elles font sourire. Hein, c'est des trucs de bonnes femmes. Hein. Si elles insistent, on leur dit qu'on ne peut pas traiter les cas particuliers, qu'il s'agit de sujets d'intérêt général. Alors là, je vous ai fait une petite diapo. C'est pas la première fois que je la passe, elle fait toujours sourire. Hein. Donc 26 juin 2012, 14h-18h, atelier de synthèse. 101 participants, 89 hommes, 22 femmes, 5 hommes à la tribune, un président, 4 rapporteurs d'atelier. Nombre d'interventions hommes 39, femmes 7, temps de parole moyen hors rapporteur, les hommes prennent les paroles en moyenne 4 minutes, les femmes 2 minutes et demie, temps de parole hommes 3h23, temps de parole femmes 0h17. Difficile de s'imposer, à 11 reprises d'intervention sauvage. Alors, dans les débats, hein, les femmes lèvent la main et les hommes interviennent. Hein, et le président, comme c'est dans la conversation, ne veut pas interrompre hein, la question. Donc, voilà. Je sais pas, vous connaissez ça, même dans le milieu étudiant, hein, je pense. Invisible, à 5 reprises dans l'après-midi, les femmes lèvent la main, le président ne leur donne pas la parole. Trop long, 15h27, une représentante de la Fédération des conseillers de parents d'élèves fait une intervention sur l'accompagnement des enfants à l'école. 4 minutes, brouhaha, personne ne l'écoute. Le président lui demande d'abréger son propos car c'est l'heure de la pause. Hors propos, 16h30, une femme parle des difficultés des femmes de milieu rural qui travaillent en ville. Le président l'interrompt en lui faisant remarquer que c'est hors propos. L'intérêt général avant tout. 17h15, une femme parle des problèmes d'accompagnement des personnes âgées qui habitent près de chez elle. Un rapporteur d'atelier l'interrompt. On ne peut pas prendre en compte tous les cas particuliers, il s'agit de débattre de l'intérêt général. Alors, c'est une caricature, hein, je veux dire, mais c'est tout le temps comme ça, en fait. Hein, vous pouvez voir dans les conseils municipaux, mais c'est vrai aussi dans les assemblées générales étudiantes ou les réunions de profs hein, auxquelles je participe. Hein. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on voit aussi, dans cette instance de participation, hein, que ce qui est invisible, eh bien, dès qu'on commence à le révéler, hein, dès qu'on commence à rendre visible des choses comme ça, on voit bien à quel point la participation des hommes aux affaires publiques reste écrasante. Hein. Écrasante, d'une part en nombre, d'autre part en expertise, hein, et en fait, à quel point il est difficile pour les femmes de prendre la parole. Et si elles doivent prendre la parole et être écoutées, il faut qu'elles soient dans les registres qui intéressent les hommes. Si jamais elles parlent de registres qui n'intéressent pas les hommes, elles sont déclassées, dévalorisées. Ce n'est pas important, hein, c'est secondaire. Les bébés, les personnes âgées, etc., les handicapés, c'est pas important. Enfin, ça peut être important si les handicapés, voilà, mais pour d'autres. Alors, cette opération de concertation est intéressante parce que, en fait, sur toutes ces réunions, il est sorti hein, finalement un certain consensus. Hein, c'était un Grenelle qui devait finir par un consensus. Hein, et du coup, le consensus pour une ville qui enthousiasme tout le monde et que le directeur de l'agence d'urbanisme et animateur de ces ateliers a su très bien vendre, hein, c'est-à-dire une ville post-carbone, hein, on n'a pas le choix, hein, avec la pollution, le réchauffement climatique, on a quand même ces menaces climatiques qui nous pèsent, hein, qui sont les nouvelles idéologies de la ville, et en même temps, un projet de ville un peu de peur, hein, c'est-à-dire on va s'asphyxier, c'est pollué, donc il faut sortir de la ville de voiture, et en même temps, un peu de plaisir, la slow attitude, je ne sais pas si vous avez entendu parler des slow city, c'est la ville qui est cool, là où on traîne, on flâne, on peut faire du footing, ça qui est bien. Hein. Alors ces discussions entre hommes, hein, elles peuvent être mises en relation avec des projets qui font consensus. Par exemple, l'Assemblée à l'unanimité a voté une motion pour dire qu'il fallait aller à pied à l'école. Il fallait cesser d'amener en voiture les enfants à l'école. Ben voyons, c'était les hommes qui votaient, ils n'amènent pas les enfants à l'école. Donc voilà, utiliser le vélo et les deux roues motorisées. Alors ça c'est assez intéressant aussi, vous le verrez par la suite, parce que ça, c'est les deux roues motorisées, c'est 95% des hommes. Mais le vélo est aussi à 75% ou 70% une pratique masculine. Développer le covoiturage, là je vous en parlerai aussi. Toutes ces choses sont des pratiques actuellement masculines. Hein. Donc on décrète, enfin, on se met d'accord, on fait un consensus, hein, une assemblée d'hommes fait un consensus pour décréter quelles sont les bonnes pratiques de la ville durable. Et ces bonnes pratiques de la ville durable se révèlent être les bonnes pratiques masculines, et en plus masculines blanches, hein, puisque il y a aussi la question des classes sociales, bien sûr. Et donc là, on voit bien comment les pratiques qui sont préconisées pour cette ville post-carbone, slow, etc., sont les pratiques des classes dominantes. Alors il y a un truc formidable, un expert qui proposait d'optimiser les centres commerciaux périphériques comme parking relais et concentration de services, crèches, garderies, écoles. Ben voyons, hein, c'est-à-dire il s'agit d'optimiser le travail des femmes. C'est comme quand autrefois, vous savez, c'était Moulinex libère la femme, on disait vous allez être libéré de la tâche, vous n'aurez plus à aller au lavoir pour laver le linge puisque vous avez la machine chez vous. Donc là, il y a aussi toujours cette pensée qui est pensée rationnelle, qui consiste à dire qu'on va optimiser les transports. Hein. D'une part, comme ça, on évitera que les femmes aient besoin de rentrer en ville avec leur voiture, ce qui pollue. Hein. Et puis en même temps, comme ça, elles pourront faire les courses et travailler aussi. Hein. Voilà. Alors évidemment, toutes ces affaires-là, vous allez voir, ne correspondent pas avec les études sur la mobilité des femmes qu'on a faites. Hein, et au contraire. Hein. Et puis, ces projets qui font consensus, eh bien, on n'a pas le choix. Hein. C'est ce que dit la conférence de consensus, ou le Grenelle. Hein. Il dit, de toute manière, on est obligé hein, de prendre ces décisions-là, parce qu'il y a le réchauffement climatique, la pollution, les embouteillages. Hein. Et puis, en plus, on aura une ville plus douce, plus verte, plus post-carbone, plus calme. On voit bien hein, la manière dont se construisent, finalement, les nouvelles pratiques de la ville durable. Alors, à partir de là, ben, on s'est posé la question... on commence à travailler, donc là encore avec des étudiants. C'est une étudiante, non, elle n'était pas à Caen, elle était à Rouen avant, ouais, qui fait un master de géo hein, sur le vélo et la marche. Mais pour l'instant, elle a travaillé sur le vélo. Donc elle a travaillé aussi sur la pratique du vélo à partir de statistiques. Donc à peu près deux tiers d'hommes à vélo, un tiers de femmes. Donc il y a par contre des pics, hein, c'est-à-dire que les pics, c'est au moment où on va au travail, là, il y a beaucoup plus d'hommes et beaucoup moins de femmes. Dès qu'il pleut, il y a beaucoup moins de femmes. Le week-end, par contre, et sur les loisirs, il y a une plus grande proportion de femmes. Mais globalement, sur les transports au travail, ce sont des hommes. Et en plus, il semble que plus, puisqu'on a des statistiques sur plusieurs années, avec notamment le V-Cube, hein, le vélo de la communauté urbaine, et il semble que plus il y a de pratiques de vélo qui augmentent lentement, plus le différentiel entre femmes et hommes s'accentue, s'accroît. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a peu de cyclistes, on a une minorité de femmes cyclistes, et au fur et à mesure que la pratique du vélo augmente, eh bien, la participation des femmes stagne. Alors évidemment, on a travaillé sur qu'est-ce qui empêchait les femmes de faire du vélo. Et donc on a trouvé avec Florence Ulrich sur des entretiens, enfin c'est elle qui a mené les entretiens, elle a classifié cinq types d'empêchements. Donc un, ces empêchements fonctionnels, hein, les courses, accompagner les enfants, quand on a... un enfant, ça va, on peut l'amener sur le porte-bagages. Deux, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Hein. Et trois, ça devient carrément insurmontable. Hein. Donc là, ça devient compliqué. Alors évidemment, quand on dit ça au vice-président de la CUP, qui est vert, il dit « Mais comment elles font les Allemandes ?» Alors je lui dis « Elles ont 0,85 enfants par ménage. Hein. » Et puis ensuite, il dit « Oui, mais il y a aussi le pédibus au Japon. » Ils emmènent les enfants ensemble, etc. Donc il y a aussi les gens qui pensent la ville ont toujours des solutions pour les femmes. Et puis alors après ils disent tous, mais moi j'amène mes enfants à l'école, hein, c'est ça aussi. Mais les statistiques disent pas ça aussi. Voilà. Donc là aussi, donc première chose fonctionnelle, les courses, les enfants, les accompagnements de personnes âgées aussi. Deuxième élément, empêchement, la technique. Les femmes, beaucoup de femmes ne savent pas faire de vélo ou ne font pas bien du vélo. Il semble même qu'elles savent moins bien faire du vélo qu'autrefois. Hein. Du temps de nos mères ou de nos grands-mères, il y avait moins de pratiques automobiles, plus de circulation au vélo, c'est devenu plus dangereux. Et donc les femmes ont désappris à faire du vélo. On voit bien aussi que dans les clubs de vélo, VTT, tout ça, il n'y a pas de femmes, il y a très peu de femmes, hein, très peu de petites filles. Puis comme vous l'avez vu auparavant, je veux dire, si les filles sont déjà pas très sportives, s'il n'y a qu'un tiers des filles qui font du sport, il y en a deux tiers qui n'en font pas du tout. Hein. Troisièmement, c'est vrai qu'en bas des tours, hein, qu'est-ce qu'on voit, c'est les garçons sur leur BMX, c'est ce qu'on les retrouve sur le skatepark, hein, on trouve peu de petites filles. Hein. Troisième empêchement, des choses aussi qui sont très typiques, la peur de la technique, de dérailler, de crever, etc. Hein. Donc là aussi, quand on dit ça, ça fait sourire, en disant, ça énerve les femmes quand on dit des choses comme ça, hein, puis en même temps, ça fait sourire les hommes, hein, je veux dire, ça ne veut même pas réparer leur roue, mais n'empêche qu'il y a cette idée. Les empêchements, c'est aussi la présentation de soi. On doit aller au boulot, mais autant un homme, il peut être, d'abord, on ne fait pas les mêmes métiers, puis il peut avoir un peu quelques auréoles sous les bras ou transpirer un peu, autant une femme, on lui demande une présentation de soi ou s'intérioriser qui est plus importante. Et quelquefois, il faut être en talon ou en tailleur, en costume. Ensuite, il y a le casque. Hein. Qu'est-ce que ça donne quand on a une coiffure pas mal et qu'on arrive et qu'on a les cheveux tout aplatis en arrivant au boulot. Donc, il y a aussi toutes ces questions de présentation de soi. Et puis ensuite, la question de la peur, des peurs urbaines, hein, moins en vélo qu'à pied, hein, c'est-à-dire la peur d'être sifflé. Beaucoup de femmes racontent qu'à un moment, elles ont été la misogynie des mecs qui leur font des queues de poisson, ou bien des réflexions, etc. Donc on retrouve une série d'empêchements. Hein. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que quand on oppose dans des entretiens, là on en a déjà trois, à des responsables d'associations qui s'appellent Vélocité ou l'adjoint qui s'occupe des vélos, et bien en fait, ces empêchements, quand on les évoque, les font sourire. Hein, je veux dire, ça les fait rire en disant, mais vous savez, comme beaucoup de femmes qui disent qu'elles sont embêtées de transpirer ou de mettre un casque quand il pleut, alors ça les fait marrer carrément. Hein, je veux dire. C'est, voilà. Donc là, on voit bien aussi, ce qui est intéressant, c'est l'aspect ethnométhodologique, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, les femmes n'ont qu'à savoir réparer un vélo, elles n'ont qu'à savoir faire du vélo, elles n'ont qu'à... Mais qu'est-ce que nous embête avec leurs cheveux qui sont aplatis, hein, voilà. Donc il y a aussi une non-considération, hein, de ces empêchements, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les faire valoir, puisque les valeurs centrales, c'est que de toute manière, on n'a pas le choix, avec le réchauffement climatique, il faut faire du vélo, et il faudra bien qu'elles s'y mettent. Et puis aussi, on a également les réactions d'un certain nombre de femmes qui, elles, sont cyclistes, et qui, comme les femmes sportives, disent « moi, j'y suis bien arrivé, moi, je me suis débrouillé autrement ». Et donc, cette minorité de femmes... effectivement, accrédite l'idée que le modèle de vélo est possible pour tous. Hein. Voilà. Et quant aux experts, quand on téléphone, il y avait un des experts du vélo qui disait en plus, son grand credo, c'était qu'un des grands problèmes de l'humanité d'aujourd'hui, c'était l'obésité. Et donc, justement, c'était bien parce que le vélo, ça faisait maigrir. Donc, c'était cette idée-là, avec quelque part. Donc, évidemment, quand on lui pose en aparté la question, ce que j'ai fait... Qu'est-ce qu'on fait quand on est obèse? Alors, elle ne comprenait pas la question. Hein. C'est-à-dire, pour lui, on ne pouvait pas être obèse. Il fallait être adapté au vélo. Hein. Je veux dire, ce n'était pas au vélo de s'adapter. Vous voyez cette idéologie dominante qui fait qu'on doit s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Hein. Et après, j'ai posé la question, toujours en aparté, qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme ethnique ou qu'on a des robes longues qui ne permettent pas la pratique du vélo? Alors là, il avait levé les yeux au ciel en nous prenant pour un provocateur, hein, je veux dire. Mais en fait, si on accumule ces choses-là, on voit bien comment on peut promouvoir des pratiques qui sont des pratiques. Voilà ce que je rappelle. Alors, même chose aussi pour le tram, le bus, le covoiturage. Donc, là, l'étude sur le covoiturage, les femmes ne plébiscitent pas le covoiturage, si ce n'est les étudiantes. Par contre, les étudiantes, elles, le plébiscitent à égalité des hommes. Par contre, les femmes disent moi, c'est pas possible parce que ma tournée, c'est. Le petit à la maternelle, le grand à l'école, je reviens faire les courses, je repasse chez moi. Première chose. Deuxième chose, certaines, j'ai essayé de faire du covoiturage, j'étais avec trois mecs, ça sentait la sueur le soir, il ne me parlait que foot, etc. Elles étaient, voilà. Troisièmement, voilà, donc un certain nombre d'empêchements, et puis beaucoup ont dit la voiture, c'est mon truc. C'est, je suis chez moi, c'est un sas de décompression entre le boulot et la maison, j'écoute la radio, je vois la ville, en même temps on voit la ville avec des vitres, donc on est à la fois dedans la ville et dehors, hein, et donc on a aussi ce plaidoyer qui est inaudible, hein, dans la société dans laquelle on vit, hein, pour la voiture, hein, qui est un plaidoyer tout à fait compréhensible, mais qui nous paraît maintenant démodé, alors qu'il est encore une réalité sur ça. Alors, c'est la fin, voilà, j'ai deux diapos, je vais aller vite. C'est le moment où on monte en généralité. Voilà. Donc, dans la ville, les rapports sociaux de sexe sont structurés et construits, mais aussi dissimulés. C'est-à-dire, ce qui est le plus étonnant dans ça, c'est l'invisibilité. On ne voit pas les différences entre femmes et hommes. On considère de l'ordre de l'évidence qu'il faut que les filles fassent attention le soir. Hein. On considère que les équipements de loisirs sont faits pour tous les jeunes. Si les filles n'y vont pas, c'est qu'elles n'ont pas envie d'y aller. Elles ont mieux à faire. Hein. Voilà, donc il y a ces rapports sociaux de sexe, on ne les nomme pas, et immédiatement ils sont réfutés. Donc on a aussi listé une série de réfutations. Hein. Les séries de réfutations, c'est c'est les gènes, les hormones, hein, les hommes ont besoin de cette extraterrestre, on a la testostérone, il faut qu'ils chutent dans un ballon, sinon ils font des bêtises. Hein. Donc il y a tous ces arguments-là. On dit sinon, oui, mais les problèmes des jeunes, c'est surtout les Turcs, les Maghrébins, les Gitans, les pauvres, etc. Hein. Donc là aussi, hein, c'est eux qui posent problème, hein. C'est eux qui sont machos dans la ville. Hein. Donc on a toute une série de réfutations, et puis en plus, et après il y a la réfutation Mais c'est pas vrai ce que vous dites, il y a de plus en plus de femmes à vélo, ça change. D'ailleurs, il y a de plus en plus de filles délinquantes aussi, et puis il y a de plus en plus de filles qui font du foot, alors que les chiffres sont extrêmement stables. Hein, je veux dire, la délinquance, ça a fait un grand bruit. Des femmes a augmenté il y a 2 ans, des jeunes filles a augmenté il y a 2 ans, elle était passée de 3 à 5 %, hein, donc une augmentation de presque 100 %, mais ça restait que 5 %, et ça avait fait la une de plus en plus de femmes violentes, etc. Alors que 90% de la délinquance, 80% est une délinquance masculine. Il devient difficile, par contre, dans une société démocratique comme la nôtre, ça c'est le savoir-faire, le grand savoir-faire de notre République hein, laïque, c'est qu'on n'affirme pas publiquement la supériorité des hommes sur les femmes. Hein. Par contre, il reste possible, c'est un des classiques de la domination, de définir une norme universelle qui masque le groupe dominant, ce qui permet de définir le groupe dominé comme une minorité, comme ne s'intégrant pas à la norme. Donc la norme universelle, c'est la pollution, la solution, c'est le vélo, et donc la minorité qui ne fait pas du vélo, ce sont des mauvais citoyens. Alors évidemment, on a bien sûr observé dans ces travaux que les décideurs, les organisateurs, les élus, les citoyens étaient presque exclusivement des hommes à la peau blanche. Hein. Très peu de personnes, là, pour le coup. Voilà. Donc là aussi, l'ouverture vers l'intersectionnalité, mais là, il faudra qu'on en parle dans le débat. J'ai pas le temps j'avais évoqué un petit peu sur les skateparks et les city-stades, là. Se fait à partir d'un point de vue critique, hein, donc sur la masculinité et la blanchité, whiteness, hein, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour interroger la sincérité des politiques d'intégration des habitants de sexe, âge, classe et race différents dans une ville durable. Donc actuellement, l'idée, c'est du travail qu'on fait, c'est d'essayer d'avoir une approche critique de la ville durable et du développement durable, en montrant que ce sont des nouvelles idéologies qui favorisent les classes dominantes. Hein. Donc évidemment, quoi. Et ces nouvelles idéologies s'appuient sur le tenu pour acquis du réchauffement climatique, etc., et sur également ce qui permet de montrer qu'on a de nouvelles pratiques dans une nouvelle ville et qui est une ville qui correspond à la zone 1 du livre de Norbert Elias qui s'appelle « Logique de l'exclusion ». Je ne sais pas si vous connaissez ce beau livre de sociologie qui montre comment le charisme de la classe dominante se crée en créant les espaces d'exclusion des personnes qui connaissent. Voilà. Alors, dernière diapo. Ça, c'est aussi sur les imaginaires. Donc là aussi, je n'ai pas eu le temps de trop développer, mais il faut savoir aussi que tous ces imaginaires se créent également, ce charisme des classes dominantes, hein, et qui sont des charismes liés à des images masculines, eh bien, se créent sur des grands équipements. Hein. C'est-à-dire le tramway, certes, mais aussi le pont. Alors là, c'est notre superbe pont Levant de Bordeaux. Donc, je veux dire, effectivement, on peut se demander si les élus préfèrent des tramways aux bus, hein, qui sont 20 fois moins chers, c'est parce qu'ils ont joué au train électrique quand ils étaient petits, parce qu'ils ont construit des ponts quand ils étaient petits, puis des salles de rock ou des stades. Hein. On voit bien quand même que dans les grands travaux de la ville, si dans la campagne électorale ça va ressortir, ça, hein, ces grands travaux, et bien ce sont des grands travaux qui sont absolument et très fondamentalement et très structurellement et culturellement construits sur des modèles masculins. Hein. Vous voyez, vous ne pouvez pas voir dans ce modèle. Le tram, les utilisateurs sont des femmes, hein, certainement, mais dans la conception même de ces objets, ce sont des objets de prestige qui correspondent à des objets masculins. Hein, et donc, c'est aussi, quelque part, la marque d'une domination sur la ville, qui est une domination masculine. Alors, les derniers projets, puisqu'on va avoir un grand stade à Bordeaux qui va avoir 60 000 places, et du coup, les architectes qui conçoivent Bordeaux disent que ça va déséquilibrer la ville, puisqu'il y aura ce stade vers le nord, et donc... prévoit de la rééquilibrer avec un autre stade de 40 000 places de rugby au sud, hein, pour équilibrer la ville. Voilà, donc, comme ça, pour équilibrer la ville. Donc on aura au nord 60 000 amateurs de foot qui crieront « Tédé, enculé l'arbitre » et au sud 40 000 amateurs de rugby qui crieront « Tédé, enculé l'arbitre ». Voilà. Enfin, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir quand même que c'est, si on ne dit pas qu'il n'y a que des hommes dans les stades, eh bien, je veux dire, évidemment, on oublie de penser que bien, ce sont des monuments qui consacrent l'emprise masculine dans la ville et qui consacrent et renforcent effectivement les systèmes de domination des femmes dans la ville. Voilà.
Merci.
C'est un peu long, hein. Merci.